Je suis en compagnie de Thierry Hoquet pour parler de ce numéro de la revue critique d'août-septembre 2022 intitulé « Vous avez dit nature ». Ce numéro est conçu donc par toi Thierry et aussi par Élie Düring, par Pedro Cordoba et par Françoise Balibar. Ce numéro me semble essentiel car il interroge un paradoxe du monde contemporain autour du concept et du terme de nature. C'est là-dessus que je souhaite t'interroger sur comment tu as conçu ce numéro-là de la revue.
Très bien. Il me semble qu'en effet, au point de départ de notre réflexion, il y avait le sentiment d'un paradoxe. C'est-à-dire que ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être la pensée écologique, en vérité, tendait à faire l'économie de ce qui autrefois incarnait le cœur même de la pensée téléologique, le télos même justement de cette pensée écologique. Et c'était le concept de nature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une écologie sans nature. Donc c'est ça le paradoxe initial, c'est-à-dire le sentiment que ce qui doit être protégé, ça n'est pas la nature. Et même chez certains penseurs, on a le sentiment que la référence à quelque chose comme la nature, au lieu d'aider la pensée écologique à se cristalliser, aboutit en vérité à faire un écran ou un obstacle à une véritable prise de conscience écologique. Donc, notre point, en fait, en appelant cela « vous avez dit nature », comme c'est bizarre, en fait, hein, c'est le sentiment d'une étrangeté même de ce syntagme de nature. Nature aurait été inventée une fois, ce serait imposé dans notre conception, mais cette conception est condamnée soit comme étant l'apanage de la modernité, soit comme étant le signe caractéristique d'une pensée purement occidentale. Et donc, il semble que la nature soit devenue une sorte de persona non grata dans la pensée écologique. Voilà le point de départ.
Alors, je vais t'interroger particulièrement sur ton article intitulé « Dieu, nature, humain, aux origines de l'Anthropocène ». Je te cite. « Au XXIe siècle, la nature nous est impensable. L'idée même nous en paraît étroitement européenne, sans rien de correspondant dans d'autres cultures. Elle semble supposer une fracture impossible à instaurer entre humain et non-humain. » J'aimerais que tu commentes cette première assertion.
Je crois qu'effectivement, la nature aujourd'hui ne s'emploie plus qu'avec des guillemets d'effroi, c'est-à-dire en fait quand on met quelque chose entre guillemets parce que on sait bien, il va de soi que ça n'existe pas, hein, et qu'on ne peut pas en parler, qu'il ne faudrait pas employer ce terme, qu'on l'emploie simplement faute de mieux. Donc il me semble que dans la pensée contemporaine, on a mis en avant le thème, je dirais, du caractère provincial de cette idée de nature, c'est-à-dire qu'en vérité, ce que nous identifions ou avons identifié pendant des siècles comme étant constituant la nature, en vérité, ne correspond à rien pour l'ensemble des autres peuples de la planète. Donc, ça prend bien sûr la forme d'un thème extrêmement prégnant dans l'anthropologie, où notamment ce que Philippe Descola a appelé le naturalisme est pointé comme pas seulement une formation historiquement située, disons par exemple la conséquence de la pensée de Descartes, mais plus généralement comme étant une certaine manière de découper dans les réalités entre les âmes et les corps, entre les humains et les non-humains. Cette manière de découper n'aurait aucun correspondant dans les autres cultures. Je donne un exemple que cite Descola, mais qu'on peut lire par ailleurs pour soi. C'est par exemple le travail d'Augustin Berck sur le Japon, dans Le Sauvage et l'Artifice. On trouve au Japon, par exemple, une distinction entre Yama et Sato. Yama, c'est donc la montagne, l'espace élevé, Sato, l'espace de plaine, le champ cultivé. Donc on pourrait dire qu'on a ici une sorte de polarité qui s'instaure entre quelque chose qui s'apparente à la culture, à l'agriculture, et puis de l'autre, Yama, ça serait l'espace sauvage, l'espace auquel n'appartiennent pas les hommes. Et en vérité, montre Augustin Berg, les temples, par exemple, ou les sanctuaires shinto se trouvent souvent sur ces lieux les plus escarpés, les plus reculés. Donc ils sont eux aussi marqués par une sorte de présence qui est une présence humaine, mais aussi une présence divine, une présence des esprits. Et donc on n'a pas l'opposition entre un monde humain et un monde naturel, le monde naturel étant le monde sauvage, le monde vide, le monde dénué d'esprit. Donc on a là des arguments très forts, je trouve, qui sont tirés de l'examen de tout un ensemble de cultures du monde pour dire que finalement, peut-être que la manière dont nous avons découpé quelque chose comme la nature, dont les humains ne feraient pas partie, est en réalité un artefact dont on peut interroger la pertinence. Nature n'est peut-être pas le meilleur outil pour penser le monde qui nous entoure.
Et alors, dans ton article, tu vas utiliser aussi Dieu et tu vas essayer de faire un tripode. Tu écris « Les trois pieds du tripode doivent disparaître, oublier Dieu, dégonfler l'humain et défaire la nature. » Et tu ajoutes « Sur l'espace ainsi libéré triomphera une approche en termes de réseau multifactoriel et de polarité multiple. »
Oui, en fait, le premier geste que j'ai voulu accomplir, c'était de sortir de la bipolarité qui oppose, on va dire, la nature et la culture ou la nature et les humains. Voilà. Donc j'ai d'abord voulu, on va dire, trianguler la relation en faisant place à un pôle qui me semble très important dans cette affaire et qui est la question du divin. En effet, je pense que ce qui importe, ce n'est pas seulement la relation en fait bilatérale entre ce qui est humain et ce qui ne l'est pas. Il y a ce troisième terme, c'est pour ça que je parle de tripode, qui est Dieu et qui est en fait le point à la fois aveugle mais aussi obsessionnellement présent de toute cette affaire. On ne peut pas traiter de ces questions sans penser à la place que l'on accorde à Dieu quand on parle de la nature. Donc, il faut en quelque sorte ne pas aplatir le débat sur un faux binarisme, parce qu'en fait, on est d'emblée dans un triangle. Donc, là, ce que tu as lu, c'est la manière dont je décris, en quelque sorte, la manière dont ce triangle est négocié au XXIe siècle. On vit dans un monde sans Dieu, un monde où la nature elle-même, son existence comme on l'a vu, est devenue suspecte, et un monde où les humains sont en quelque sorte omniprésents et où en quelque sorte on les invite à sortir de leur narcissisme, à sortir de leur orgueil et donc à en quelque sorte renoncer au thème de leur exceptionnalité. Donc il me semble que c'est comme ça qu'aujourd'hui nous pensons les choses. Voilà, donc c'est un peu pour moi la configuration métaphysique de l'anthropocène, c'est ça.
Mais ton article remonte à un temps un peu antérieur à notre XXe siècle, il remonte aux origines, on va dire, philosophiques de la modernité, et c'est là où tu trouves justement à étudier, à historiciser comment ce concept de nature a pu prendre effet à partir notamment de Dieu.
En fait, en effet, l'origine de ce récit ou de ce tripode, c'est l'idée que les humains se seraient en quelque sorte sortis de la nature et qu'ils auraient fait de la nature une sorte d'extériorité brute, notamment qui serait marquée par ce qu'on appelle le mécanisme. En fait, le mécanisme serait l'incarnation de cette grande machinerie cosmique qui serait à la fois inerte, dénuée de toute spiritualité, entièrement régie par les lois de la matière, Et face à cela, eh bien, les humains constitueraient une sorte de tout autre, parce que les humains sont dotés d'une âme immatérielle, etc. Donc c'est comme ça qu'on se représente, on va dire, la pensée du XVIIe siècle, la pensée de la révolution scientifique et l'esprit, en quelque sorte, nouveau qui émerge avec ce qu'on appelle la modernité. Ce que j'indique, c'est que ce schéma d'opposition entre les humains et la nature, entre, disons, le spirituel et le matériel, n'a pas de sens pour l'essentiel des auteurs classiques. Il n'a pas de sens pour Descartes, il n'a pas de sens pour Malebranche, ni pour Newton, ni pour d'autres. En fait, voilà. Donc, pourquoi est-ce que ça n'a pas de sens? Parce qu'en vérité, ce que ne cessent de discuter ces penseurs modernes, c'est précisément la possibilité de penser une nature ou des natures, c'est-à-dire de penser des principes d'action dans le monde qui soient indépendants de la réalité divine. Donc, ce qui me frappe, en fait, et ce qui frappe, en fait, quiconque lit un peu, justement, ce qu'ont écrit Descartes, Malebranche et les autres sur cette affaire, c'est que, en vérité, on ne peut jamais identifier une nature inerte. La nature ne cesse d'être regonflée de divinité. Alors, il est vrai que, par ailleurs, il y a une sorte de grand ménage qui s'opère, parce qu'en fait, on refuse d'accorder à la nature une puissance propre. Mais justement, ce qui vient tenir lieu de ces multiples puissances propres qu'on pourrait reconnaître dans les différentes choses, par exemple, si je dis que le soleil chauffe, j'accorde en quelque sorte une puissance au soleil, les classiques refusent cette affaire et au contraire, ils mettent l'idée que seule la puissance du Dieu unique et le principe dynamique qui gouverne, règle, opère, donne sa puissance au fonctionnement de la nature. Donc la nature n'est jamais quelque chose d'inerte ou de dépourvu d'esprit. Au contraire, c'est le lieu où le Dieu ne cesse de se manifester et d'intervenir.
Et ça te permet de considérer alors nouvellement les pensées de l'écologie actuelle et peut-être d'indiquer les erreurs qu'elle pourrait faire, qu'elle pourrait produire en refusant le terme de nature. Et donc, tu as toute cette partie, Ritournelle la touriste, en fait, où, bien entendu, le livre de Bruno Latour, Nous n'avons jamais été modernes, est essentiel à cette affaire, ce livre sorti en 1991. Et donc, à la relecture que tu fais du terme de nature, ça te permet de relire ce livre de Bruno Latour nouvellement et de le modérer. Et en tout cas, de pouvoir émettre des critiques du point de vue que tu as historicisé.
Bon, alors, en fait, en philosophie, il n'y a jamais d'erreur à strictement parler. Il y a juste des biais de lecture, des interprétations qui tordent la réalité pour lui faire dire quelque chose, pour emmener les lecteurs dans une certaine direction. Donc quand les différents auteurs que je cite, comme Baptiste Morisot ou Émilie Hache, utilisent, formulent dans des phrases des critiques de l'idée de nature, il est facile de voir où ils veulent en venir, en fait, c'est-à-dire ce qu'ils dénoncent. Mais ce qui me frappe, moi, a posteriori, je dirais, en lisant leurs textes, c'est que, même si je perçois bien leur intention, ce qui est obsessionnellement présent, c'est cette haine de l'idée de nature, en fait. Ce rejet complet de l'idée de nature comme une idée, non seulement, on va dire, simplement illusoire ou fausse, mais comme une idée toxique, à la source de la brutalisation de la nature, etc. Or, c'est là, et c'est là que je bloque une première fois, c'est-à-dire sur le fait pourquoi finalement la nature serait une idée aussi scandaleuse que cela. Et puis la deuxième raison pour laquelle je bloque, c'est sur le fait du rôle généalogique ou principiel que l'on fait jouer à Descartes et à la philosophie moderne dans cette affaire. Parce qu'en fait, ce qui naît à partir des œuvres de Descartes, de Newton et d'autres, c'est avant tout l'idée d'une nature où la présence de Dieu ne cesse de se manifester dans les phénomènes les plus ordinaires. Hein. Par exemple, le simple fait que nous ouvrons les yeux et que nous voyons, eh bien, grâce au mécanisme, nous savons que c'est lié aux lois de la lumière, de l'optique, etc. Et ce que montrent les interprètes de cette affaire, c'est que d'abord, les lois de l'optique sont des lois qui ont été instaurées par Dieu, donc que finalement Dieu est présent dans les lois mêmes qui régissent les phénomènes de l'optique, mais l'autre élément, c'est que elles produisent des résultats qui sont tellement complexes. Imaginez autour de nous tous les points qui existent et qui chacun envoie un rayon et tout ça se croise dans notre œil pour former une image cohérente. Tout ça, c'est difficile à imaginer. Donc, deuxième point où Dieu se fait sentir, c'est dans cette idée que finalement, la vision, même la visibilité du monde est en elle-même une sorte de miracle qui n'est possible que parce qu'on suppose Dieu à son origine. Donc, il y a du Dieu partout. Il y a du Dieu partout, dans la nature des classiques. Donc, c'est là que je demande, finalement, où est cette nature inerte et morte qui serait manipulable et exploitable et corvéable à merci.
Alors, on va continuer cette exploration parce que un paragraphe qui m'a particulièrement frappé et qui me permet de, à nouveau frais, de penser... Ce concept de nature, parce que il faudrait peut-être spécifier, Thierry, que ce que tu émets là comme idée est fortement hétérodoxe dans les sciences humaines actuelles, puisque les sciences humaines actuelles, de manière assez massive, rejettent désormais le concept de nature, c'est-à-dire lui ont jeté un sort. Et donc, ton article est assez hétérodoxe en la matière. Et c'est là où il m'intéresse particulièrement, c'est qu'il faut toujours sans cesse réinterroger des certitudes. Et il est devenu dans les sciences humaines une certitude que le concept de nature est à abandonner, en fait. Si bien que quand tu écris cela, et j'aimerais que tu nous en dises un peu plus, tu écris « Pour les modernes, tout le problème... n'est donc pas de chasser Dieu d'une nature où il n'aurait que faire. Ce qu'il faut, c'est chasser les natures, les petits dieux, les faux dieux. Bref, en finir avec l'idolâtrie. La modernité dans son projet signifie donc bien un grand ménage. Or, ce que l'on apprend, entre autres, de Bruno Latour dans « Nous n'avons jamais été modernes », c'est que le projet moderne est plutôt un grand partage. Et là, tu as modifie cette proposition.
Pardon. Alors, en effet, je dirais que tout d'abord, là, ce que j'essaye de faire dans ce passage que tu as lu, c'est la distinction entre d'abord une nature avec un grand N, qui serait en quelque sorte la totalité des phénomènes, et puis, d'autre part, des natures sans majuscule, c'est-à-dire le principe qui fait d'une chose qu'elle est ce qu'elle est ou telle qu'elle est. Ces natures, en fait, on pourrait dire que, ben voilà, on l'utilise encore régulièrement pour dire, je sais pas, la nature du chat est de griffer. Si un chat griffe, ben c'est que c'est dans sa nature. Donc, on a cette idée que, au fond des individus, au fond des êtres, au fond des espèces, au fond des choses, il y aurait une nature qui gouvernerait le comportement de ces choses. Or, ce sont ces multiples natures qui sont ambiguës, dont le statut n'est pas clair. Comment les caractériser, où les localiser, quel être leur accorder? Qu'est-ce que sont ces natures dont il nous semble que nous les voyons partout, en fait? Qu'est-ce qui fait que le gland va pousser pour devenir un chêne? Quelle est donc cette, on va dire, a priori matérielle, hein, pour reprendre une formule que Canguilhem utilise à propos de la biologie moléculaire, de l'ADN? Quelle est cette a priori matérielle qui fait que la chose devient ce qu'elle est? Hein, par quel miracle, en fait, est-ce que ça s'opère? Voilà. Donc, c'est ça le problème des natures dans leur prolifération. Et ça, les modernes, ça les gêne beaucoup. Ça les gêne beaucoup pour deux raisons. Ça les gêne d'abord parce qu'un ensemble de ces natures sont finalement soupçonnés d'être en fait des illusions. Par exemple, quand Descartes critique par exemple l'idée d'une vertu particulière qui serait logée dans le cœur pour le faire battre, une vertu pulsifique qui serait logée dans le cœur pour faire en sorte que le cœur réalise sa fonction qui est de battre. Voilà, là Descartes dit non, il n'y a pas de vertu pulsifique, c'est la fameuse aussi vertu dormitive de l'opium, enfin voilà, toutes ces vertus, ces principes, ces qualités que l'on accorde aux choses pour expliquer comment elles font ce qu'elles font ou deviennent ce qu'elles sont. Là-dessus, les modernes ont un discours critique. C'est ça le grand ménage, c'est de parvenir à éliminer toutes ces entités imaginaires en fait et ces superstitions en fait qui obstruent notre regard sur le monde physique. Donc face à ces natures qu'il faut éliminer, il y a bien un travail un travail critique qui s'opère pour dénoncer un ensemble d'illusions. Mais ce que j'explique, c'est que la suppression de ces natures se fait au profit de la nature avec un grand N, elle-même identifiée à la divinité. Donc on voit bien cette fois-ci que quand on passe à la nature en grand, elle n'a pas plus, on va dire, les faveurs des classiques. Ils la trouvent tout aussi suspecte que les natures en petit. Mais simplement, cette nature en grand, il lui donne une unité et une cohérence parce qu'elle est constituée en quelque sorte de l'ensemble de ces lois qui sont, comme le dira Malebranche, les volontés générales de Dieu, ou comme le dira plus tard Buffon, des effets généraux en fait. Donc ces lois de la nature, elles constituent finalement ce qui donne du contenu à la... Voilà, ce qui manifeste, ces lois de la nature manifestent la présence de la divinité dans la nature. Donc, il est clair que cette élimination des petites natures, elle se fait aussi dans des termes qui ne sont pas seulement épistémologiques, mais qui sont aussi théologiques, en fait, qui sont aussi en termes de religion. C'est-à-dire que ces petites natures, ce sont autant de petits dieux que les anciens ont logés dans les choses. Et donc, c'est en ce sens que ce sont des idoles. Si je dis, je mange du poireau et je dis, oh, le poireau me fait du bien, je divinise en quelque sorte le poireau en lui donnant la vertu de me faire du bien, le pouvoir de me faire du bien. Pour ça, un philosophe comme Malebranche dira que, en fait, c'est là le principe de l'idolâtrie. Et c'est contre cette idolâtrie et donc cette forme de persistance du paganisme dans notre pensée que Malebranche entend, au contraire, supprimer tous ces petits dieux et les remplacer par l'adoration du seul vrai Dieu, c'est-à-dire le Dieu universel et général, le Dieu unique en fait. Donc, effectivement, ça consiste à supprimer à chaque chose individuelle son pouvoir pour les remplacer par la seule puissance efficace qui est celle de Dieu, avec un grand D majuscule. Donc là, il y a un changement, il me semble, important.
Et là, tu en arrives vers la conclusion de ton article à écrire ceci. Pour continuer sur cette nature avec un grand N, le paradoxe de cette nature des modernes est qu'elle va dégénérer. Elle réserve au moins nominalement un statut spécial à l'humain, mais elle sera revue par l'amétrie qui l'éliminera. Elle établit un lien étroit et même consubstantiel entre Dieu et la nature, mais elle sera revue par la place qui les séparera. Ce mouvement conduira à penser que la mécanisation de l'âge classique consista à couper la nature d'un dieu trop éloigné alors qu'il en était au contraire trop proche et à finir par tout réduire à l'humain qui, faisant de la science, ne se rencontre jamais que lui-même.
Oui, donc en fait, ce que je voulais faire dans cet article, c'était confronter deux manières de ne pas penser la nature. À l'âge classique, on le voit, la seule chose qui compte, c'est Dieu. Le Dieu, le grand Dieu, c'est lui qui absorbe tout. Il absorbe la nature qui n'est que l'ensemble de ses volontés générales et il absorbe l'humain qui est sa créature et qui elle-même en tant que créature est soumise aux lois de la divinité. Donc à l'âge classique, c'est Dieu le pôle du tripode qui s'impose. Aujourd'hui, on voit que c'est l'humain qui s'impose. Donc on a une nouvelle impossibilité de penser la nature, mais qui ne se fait pas au profit de Dieu, mais au profit de l'humain qui est toujours renvoyé à lui-même. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de voir, en quelque sorte, d'essayer d'envisager quelles pouvaient être les configurations qui avaient permis ce basculement. Et il me semble ici que, de fait, la nature des modernes telle que je la décris, c'est-à-dire celle qui, on va dire, règne sur les 17e et 18e siècles, eh bien, elle se met à trembler avec certains gestes qui renégocient de manière fondamentale le tripode du 18e, du 17e, 18e. C'est d'abord le fait que, effectivement, l'exception humaine semble être mise en cause à partir du moment où on considère avec la maîtrise que Descartes n'aurait pas dû faire une exception pour les humains, il aurait dû les inclure dans le mécanisme général. Donc là, on a un premier tremblement en fait qui met en cause la pertinence de l'autonomie de l'humain dans l'affaire. Et d'autre part, eh bien, on a également la question de la place de Dieu qui, avec la place, semble être une hypothèse dont on peut se passer hein, et dont la physique finalement doit se débarrasser. Et on peut dire qu'à ce moment-là, en fait, s'ouvre au début du 19e siècle, et c'est, si vous voulez, le tripode qui est un peu l'impasse de mon article, hein, c'est là-dessus que je termine, c'est-à-dire cette idée qu'avec ces gestes-là, tout à coup, on a l'idée de la possibilité d'une nature autonome, d'une nature qui soit débarrassée de Dieu et dans laquelle les humains eux-mêmes seraient inclus. Et c'est peut-être ça le grand monde du 19e siècle, c'est-à-dire le monde où la nature règne en maîtresse, en fait. Le vrai paganisme réalisé s'accomplit, en quelque sorte, au moment où on s'intéresse à l'idée que la nature est ce qui engloutit l'ensemble du réel, constitue l'ensemble du réel, cette nature parfaitement autonome dans laquelle les humains eux-mêmes se trouvent inclus. C'est peut-être ce moment-là, en fait, qui est le seul moment où la nature parvient à être pensée dans son autonomie. Et c'est intéressant de voir que c'est le siècle de Alexandre de Humboldt, que c'est le siècle de Lamarck et de Darwin, que c'est aussi le siècle de Haeckel, le fondateur, enfin l'inventeur du terme écologie. Donc il y a énormément de choses qui se passent dans ce grand 19e siècle qui, à mon sens, nous invite à le réouvrir comme le moment où une nature profuse, en fait, une nature qui est à la fois mécaniste, mais pas seulement, qui est dotée entièrement de puissance propre, se trouve en quelque sorte glorifiée et déifiée à nouveau.
Alors j'aimerais pour conclure, Thierry, que tu m'expliques un peu qu'est-ce que tu peux en faire de cela, en fait. Une fois cela théorisé, une fois cela historicisé, est-ce que tu peux trouver une nouvelle fécondité avec cet usage-là? Est-ce que tu y vois des hypothèses, émettre des possibilités, ou ça t'entraîne vers une, peut-être pas une impasse, mais vers quelque chose où une fois dit, ça peut être compliqué après à gérer, en fait?
Je crois que ce que je veux dire à travers cela, et en fait, si vous m'avez bien écouté, vous avez compris que c'était, je pense, mon intuition de départ, au fond. C'est cette idée que on gagne quelque chose à réenchanter la nature, c'est-à-dire à faire une place à l'idée de nature. C'est-à-dire, je ne crois pas que... en dissolvant cette nature totale, cette nature vertigineuse, cette nature divine et mystique, je ne crois pas qu'en s'en débarrassant, en fait, on gagne quelque chose. Je crois donc que c'est ça mon idée, en fait. C'est essayer de voir comment, finalement, en mettant en miroir l'âge moderne et l'âge contemporain, dans leur incapacité à faire place à la nature et en faisant ressortir finalement ce 19e siècle comme étant peut-être l'âge d'une certaine exaltation des puissances de la nature, je crois qu'on a quelque chose à retrouver dans cette affaire. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. peut-être renouveler une sorte de romantisme, c'est-à-dire une sorte de sensibilité aux puissances de la nature, considérées pour elles-mêmes et dans un émerveillement qui ne nous renvoie pas systématiquement à la divinité ou qui n'est pas systématiquement aplati sur des concepts humains. Ce que je veux dire, c'est que quand, par exemple, Baptiste Morisot nous dit que nous devons oublier la nature pour entendre les négociations des grillons qui cherchent des partenaires sexuels ou les tractations infinies qui s'opèrent dans les champs des oiseaux, moi, ce qui me frappe, c'est que j'entends encore un discours extrêmement anthropomorphe, c'est-à-dire un discours dans lequel tous les phénomènes que moi j'appelle naturels se trouvent traduits dans une sorte de sémiotique généralisée qui devient en quelque sorte le langage des institutions humaines. Les parlements, la diplomatie, les tractations, toutes ces affaires de langage, finalement. On n'entend plus que du langage. Il n'y a plus cette imperméabilité du monde naturel, cette opacité qu'il a pour nous. Je sais bien que cette attitude, elle est ambivalente et qu'on peut sans doute lui faire de nombreuses objections, mais je crois que, je vais dire paradoxalement, le fait de réinstaurer des espaces vierges, des espaces intouchables, ça a une vertu. Quand bien même, on serait tous tout à fait convaincus que ces espaces vierges ne le sont pas, que ce sont des artifices. Je trouve qu'il y a c'est important pour nous de nous confronter à une limite, en fait, de nous confronter à quelque chose qui ne dépend pas de nous et qui est face à quoi on doit se taire. Sans quoi, toutes les forêts vont être transformées en parcs de loisirs ou en réserves de bois ou en... Vous voyez ? Donc, c'est ça que je veux dire. L'idée d'un intouchable, l'idée d'un espace qui doit être préservé pour son autonomie propre, pour sa... la pureté qu'on y projette, pour la sensibilité qu'on y attache. Voilà. Donc... J'entends bien en quoi c'est difficile, parce qu'aujourd'hui tout le monde est convaincu que du fait de la, comment dire, de la prégnance, de la présence humaine, finalement, non seulement il n'y a plus d'espace dans lequel la patte de l'humain ne se ferait pas sentir, il y a du microplastique partout. Jusqu'au pôle, mais on a des satellites partout au-dessus de nos têtes, des débris intergalactiques qui nous entourent. Donc même le ciel étoilé n'est plus un espace, vierge. Hein. Donc il n'y a plus la virginité a disparu. Donc cette idée de nature sauvage, intouchable, elle n'a plus aucune existence. Et à mon sens, c'est précisément pour cette raison que nous devons en faire une idée, en faire une valeur. Précisément parce qu'elle n'existe pas, elle doit fonctionner comme une sorte d'idéal régulateur auquel nous nous soumettons volontairement, esthétiquement, moralement, voilà. Et surtout, voilà, volontairement en fait, sans que rien d'extérieur ne nous y oblige, sans qu'aucun intérêt ne nous y motive. Simplement, redonner, reconstruire pour nous une forme de transcendance intouchable. Voilà, c'est ça que je mettrais derrière ce terme un peu mystérieux et opaque de nature.
Merci beaucoup, Thierry Hoquet.